Et dans Vue de Belgique, ce matin, on revient sur les dernières annonces des ministres Maxime Prévost et Théo Franken concernant les investissements justement de la défense sur fond de remobilisation des armées européennes face à la guerre en Ukraine et à la menace russe qui semble planer. On en parle avec Wallis Treuss, il est professeur émérite à l'École royale militaire et spécialiste en économie de la défense. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Wallis Treuss, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va revenir sur ce fameux financement de la défense belge dont on entend beaucoup parler, d'autant plus depuis la création du gouvernement Arizona. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, s'est montré prudent quant à la possibilité d'atteindre rapidement les 2% du PIB consacré à la défense, comme cela avait été appelé de ses voeux par le ministre de la Défense, Théo Franken. Alors vous, qui êtes économiste de la défense, quel regard portez-vous là-dessus ? Est-ce possible, selon vous, dès cet été, d'atteindre les 2% du PIB pour la défense belge?
Disons que l'annonce peut être faite cet été, au sommet de l'OTAN, au mois de juin. L'annonce peut être faite, donc tout est important, puisque nous sommes en 2025, c'est d'atteindre les 2% à la fin de l'année. Donc nous pouvons le promettre pour la fin de l'année. Alors, est-ce possible? Tout à fait, à condition que la volonté politique existe. Beaucoup est possible avec la volonté politique. Donc, je dirais que le problème, c'est pas seulement d'augmenter le budget, c'est d'avoir des moyens de dépenser ce budget pour l'achat de munitions, de matériel, pour payer du personnel. Et ça sera un autre problème. L'état-major est en train de plancher sur toute une série de possibilités d'achat et d'acquisitions diverses, mais un certain nombre d'entre elles ne seront pas possibles cette année-ci. Je donne comme exemple, si nous voulons acheter par exemple des munitions, comme nous avons beaucoup à rattraper depuis que nous nous sommes rendus compte que l'on n'en avait pas au début de la guerre en Ukraine, même pour nos propres troupes, ben, il faudrait 13 milliards pour tout rassembler. Donc, ce ne sera pas fait cette année-ci, d'autant plus que si nous commandons maintenant, comme les autres pays commandent aussi, et qu'il y a des priorités du côté de l'Ukraine, bien, il faudra attendre avant de pouvoir débourser ces milliards ou ces millions que nous aurions en plus. Les dépenses de personnel, il nous manque de personnel. Nous sommes en train d'augmenter les différentes possibilités de recrutement. Mais bon, ça va aussi prendre du temps. Ce n'est que d'ici 2040 que nous pensons arriver à 35 000 militaires, par exemple. Alors, en ce qui concerne le petit matériel, les dépenses de fonctionnement, cela, je pense, constitue une possibilité pour augmenter les dépenses cette année-ci déjà. Mais nous sommes moins des 4 milliards, bien entendu.
Alors, le dernier gouvernement, le gouvernement précédent, celui d'Alexander De Croo, a fait énormément d'efforts en termes d'investissement dans la défense. L'Arizona continue sur cette lancée-là et les augmente encore plus.
Effectivement. Donc, au plan des dépenses et défense, bien, il y a eu une augmentation importante avec le plan STAR de Madame de Donneux. Maintenant, cela va continuer, cela va s'amplifier et ça va s'accélérer, bien entendu, parce que le plan STAR de Madame de Donneux avait été voté en Conseil des ministres avant le début de la guerre en Ukraine. Donc là, cette guerre a changé les paramètres, bien entendu. Donc ce gouvernement-ci va amplifier tout cela. Mais la question, c'est encore une fois de savoir combien et pourquoi faire. Et il y a une autre possibilité qui existe au sein de l'OCCAR. L'OCCAR est donc l'organisme européen de coopération en matière d'armement. Et là, nous pouvons commander plusieurs centaines de millions, des milliards même, mais ce sont des sommes qui ne seront pas déboursées tout de suite. Ce sont des sommes dont l'ordonnancement, donc l'ordre de payer, ne sera fait que lorsque les commandes seront honorées. Mais nous pouvons déjà décider de commander maintenant. Donc, c'est un petit problème budgétaire. Est-ce qu'on garde ces millions-là pour tel ou tel achat, mais ils ne seront pas encore déboursés maintenant?
Ouais. Alors, vous avez mentionné l'Union européenne. Donald Trump s'est fait entendre par ses voix où il décidait un peu de laisser l'Union européenne seule face au front ukrainien. Aujourd'hui encore, il a annoncé l'arrêt des financements des États-Unis pour la guerre en Ukraine. Justement, où se trouve l'Union européenne face à cette demande militaire en Ukraine?
Oui, Trump a annoncé non pas l'arrêt, mais les ailes. Maintenant qu'on se rend compte que tout peut encore arriver. Hein. Donc, pour répondre à la question, Madame von der Leyen, ce matin, a annoncé une série de décisions importantes, et pour la première fois très importantes au point de vue des montants qui pourront être utilisés et par l'Europe et par les pays membres. Et une chose importante pour la Belgique, ce qu'on vous en parlait d'ailleurs, c'est qu'il a été décidé ce matin que les pays qui vont emprunter des fonds pour financer leur défense nationale et commune, ben ces fonds seront retirés du contrôle des excès, des déficits importants. Donc là, la Commission européenne n'interviendra pas pour punir, entre guillemets, les pays qui utilisent ces fonds-là, ces emprunts-là pour la défense, ce qui ouvre évidemment une marge plus importante pour chaque pays.
Oui. Justement, la Belgique par rapport à ses voisins européens, est-ce qu'elle sert à quelque chose dans cette alliance pour la guerre en Ukraine? Comprenez, elle sert à quelque chose, je mets entre guillemets et je provoque, hein.
La Belgique, on dit souvent que c'est un petit pays, mais il faut se rendre compte que sur les 27 pays membres de l'Union européenne, en termes de population, nous sommes les 13e. Et en termes de PIB et de richesse, nous sommes 7e ou 8e. Donc, nous ne sommes pas si petits que ça par rapport aux autres qui sont derrière nous. Évidemment, nous avons pas mal de retard en matière de défense, mais je vais vous dire quand même qu'il ne faut pas oublier que nous avons des soldats qui œuvrent au sein des battle groups, des groupes de combat en Roumanie, en Lituanie, et nous avons nos F-16 en Estonie. Donc là, nous participons déjà, et ces troupes-là, bon, en fonction s'il y a un cessez-le-feu un jour, ces troupes-là vont pouvoir être envoyées vers la frontière, plus près de la frontière ukrainienne. En Roumanie, c'est quelques centaines de kilomètres, c'est 250 kilomètres seulement. Donc là, nous pourrons être utilisés pour peut-être augmenter encore les effectifs, mais pour jouer notre part sur le terrain. Même si dans le passé, on a toujours été critiqué pour ne pas avoir assez de dépenses, ben, sur le terrain, nos militaires ont été fort appréciés parce qu'ils sont très professionnels.
Justement, Theo Franken, nouveau ministre de la Défense, a lancé un plan pour réinstaurer le service militaire, non pas obligatoire, mais enfin, il a fait une campagne pour le service militaire chez les jeunes principalement. Ces jeunes militaires qui vont être formés vont-ils justement servir dans le cas d'une paix en Ukraine sur le terrain?
Ils vont servir à remplacer les professionnels qui vont aller sur le terrain sur place. Hein. Ces jeunes vont faire un service de maximum 12 mois. Bah, ils ne pourront pas être formés pour être utiles en tant que combattants sur le terrain. Par contre, ils vont pouvoir remplacer les combattants qui vont aller jusque là pour les tests qui seront réalisés ici dans les casernes en Belgique.
Sommes-nous optimistes par rapport au futur militaire belge?
Alors, optimiste, il faut être réaliste. Moi, je suis de nature optimiste, mais enfin bon, je me rends quand même compte que la population est de moins en moins enthousiaste pour participer à des préparatifs de ce genre quand on s'éloigne des frontières des pays baltes, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Pologne. La Roumanie et la Bulgarie sont extrêmement motivés à défendre de plus en plus. En plus, on va vers l'Est, cet enthousiasme disparaît un peu. Même si dans l'opinion publique, on se rend compte qu'il faut quand même faire quelque chose. Quand on voit les micro-trottoirs qu'on te fait à la télévision, souvent on dit, nous sommes pour un service militaire, mais pas pour mon petit-fils.
Wally Struys, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'École royale militaire et économiste spécialisé dans la défense. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie.